RCF.
Suite de cette série Halte spirituelle en compagnie de Lita Bassé, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Moi, je ne juge personne », reparu récemment dans la collection « Spiritualité vivante », livre de poche chez Albin Michel. Avec vous, nous parlons donc du jugement que nous portons facilement sur autrui. Alors hier, nous avons vu que chez celui qui juge, il y a souvent une blessure non cicatrisée et que par peur de souffrir à nouveau, eh bien, nous nous en prenons à l'autre. Dans votre livre, vous revenez longuement sur l'épisode, très bel épisode de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Avec vous, nous allons revisiter ce passage. Alors peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout ce passage, c'est quoi cette scène ?
Donc c'est l'histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et qui est amenée manu militari vers Jésus. Jésus qui est en train d'enseigner dans le temple. Et en fait, c'est les scribes des pharisiens qui cherchent à travers cet événement à coincer Jésus en lui disant « Alors voilà, la loi de Moïse nous prescrit de lapider ce genre de femme. Et toi, que dis-tu ?» Et en réalité, on est quand même à peu de temps avant l'arrestation de Jésus et sa mise à mort. Et en fait, il cherche à le piéger. Le texte dit qu'il cherchait à le tenter. C'est-à-dire, on va voir si tu es vraiment fidèle à la loi de notre religion, à la loi de Moïse, ou bien si tu vas tout bazarder au nom de ton fameux nouveau commandement, qui est le commandement de l'amour inconditionnel. C'est bien un piège, c'est bien une tentation pour Jésus d'aller dans le sens de utiliser une loi, la loi de Dieu qui est en fait une loi pour vivre, de la pervertir et de l'utiliser comme une loi pour détruire l'être humain. Et Jésus est là vraiment aux prises avec une tentation de juger, cette fois-ci même de retourner ce jugement contre les scribes et les pharisiens en leur disant c'est vous qui êtes des pervers et qui utilisez la loi de Dieu qui est une loi vivante pour détruire un être humain. Il est dans cette tentation, il me semble, à son tour, de juger. Et en fait, c'est intéressant, c'est juste après cet épisode, trois versets plus loin ou deux versets après, qu'il dit « Moi, je ne juge personne », qui est donc le titre de ce livre. C'est comme si il lui fallait du temps à lui aussi, puisqu'enfin, finalement, la tradition chrétienne dit qu'il était vrai homme et vrai Dieu, donc au moins autant vrai homme. Il lui a fallu du temps aussi à lui pour descendre au fond de ce qui est de l'ordre de la peur que pouvaient lui inspirer ces gens, ces scribes et ces pharisiens qui voulaient le piéger, et pour ne pas à son tour les condamner. Donc il y a vraiment là de nouveau un combat qui nous rejoint beaucoup parce que c'est le nôtre. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Il baisse la tête et il va dans un silence qui peut être assez long et il écrit sur le sol, on ne sait pas ce qu'il écrit. Et au bout d'un certain temps, il relève la tête et il dit que celui qui n'a jamais dévié, qui n'a jamais fauté, qui n'a jamais péché, on pourrait dire dans le sens de se diviser de Dieu, de se diviser de l'autre, lui jette la première pierre à cette femme.
Et alors là, les scribes vont partir, on connaît.
C'est
là.
Ça, alors les scribes et les pharisiens vont partir un à un, à commencer par les plus âgés, et dans le silence. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils baissent la tête immédiatement, Jésus, parce que d'une certaine manière, ça ne le regarde plus. Ça se passe entre chacun de ces personnages et son Dieu. Et là, pour finir, il n'y a plus personne, et il y a cette femme, et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ».
Alors on va revenir sur cette scène, j'aimerais qu'on parle de la peur, parce que vous dites dans votre livre que finalement tout le monde a peur, à la fois les scribes, les pharisiens,
oui.
La femme et
oui.
Jésus.
Oui. Parce que souvent on me reproche de dire des choses qui ne sont pas dans le texte, et en fait je crois qu'on le fait tous dès qu'on interprète un texte, qu'on l'entend d'une certaine manière, c'est sûr que ça paraît évident que la femme est terrorisée parce qu'elle risque d'être lapidée. Bon, mais l'autre chose c'est que, il me semble que les scribes et les pharisiens qui sont là sont aussi dans la peur, parce que au fond c'est Jésus qui les menace énormément de par sa notoriété. Le texte dit au début tout le monde venait à lui pour l'écouter, donc il enseignait dans le temple. En plus il enseignait dans le temple qui est le lieu, on va dire, où les scribes et les pharisiens sont vraiment chez eux, c'est leur lieu professionnel, on va dire, oui, maître à bord. Et tout le monde venait, tout le peuple venait à lui. On ne peut pas imaginer que tout le peuple de Jérusalem soit contenu dans la cour des femmes, parce que ça se passait forcément à l'extérieur du temple, puisque les femmes n'avaient pas le droit d'être dans le temple. Donc on ne peut pas imaginer toute la population de Jérusalem dans la cour des femmes. Mais il me semble que quand le texte dit « tout le monde venait à lui », c'est une manière de dire que plus personne n'allait vers eux. Elle n'est pas dite, la menace que constitue Jésus pour ses adversaires, ses scribes et ses pharisiens-là, mais Jésus était quelqu'un de très menaçant à cause de ça, parce qu'il avait un tel succès auprès de la foule, il était tellement entendu, et ça fait peur, ça leur faisait peur.
Alors la peur de Jésus ?
Alors la peur de Jésus, elle me paraît tout à fait possible, parce que nous sommes là dans le cadre de la Semaine Sainte. C'est un texte qui a un peu voyagé, on n'a pas su trop où le mettre. Il a été fixé qu'au 4e siècle, à cet endroit de l'Évangile de Jean. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'en fait, il suppose le cadre de la Semaine Sainte, où Jésus, sachant qu'il va bientôt être arrêté, enseigne dans la journée dans le temple et la nuit, il va à l'extérieur pour sa sécurité. Il va à Béthanie ou dans le jardin des Oliviers, donc à l'extérieur, pour sa sécurité. C'est comme ça que le texte commence. Donc, en fait, lui, il est très près de sa mort, de son arrestation et de sa mort. Et quand il est là, il est déjà assis. Et eux, ils viennent, et il est en position, on va dire, même physiquement d'infériorité, et là, il est piégé. Vraiment, il est piégé par eux. Et je pense qu'il y a eu comme une sorte d'identification de Jésus avec cette femme, c'est-à-dire qu'il a pu se sentir comme cette femme, sur le point d'être mise à mort. Il y a plusieurs indices qui le montrent. Il va être arrêté lui aussi au point du jour, avant que le coq ne chante. Cette femme, elle a été arrêtée à l'aube, dit le texte. Cette femme est menacée par la loi. Enfin, on brandit la loi de Moïse pour la mettre à mort. Et lui, Jésus, va être condamné parce qu'il n'a pas respecté la loi ou qu'il a blasphémé ou je sais pas quoi. Donc, on utilise aussi les fondements religieux pour le condamner. Ensuite, cette femme est dans le silence total. Jésus passe beaucoup de temps dans le silence, dans la scène. Et après, pendant la passion, le récit de la passion, il y a beaucoup de silence de la part de Jésus. Il me semble qu'il y a beaucoup de points communs entre l'histoire de cette femme et la sienne. Elle est mise là au milieu, montrée du doigt. Lui, il va être, on va le mettre, l'affubler de vêtements grotesques, et on va dire voici l'homme, on va le montrer du doigt. Donc il y a beaucoup de points communs entre leurs deux histoires, et il me semble que à travers cette Jésus avait cette faculté de s'identifier à l'autre qui est extraordinaire, et il me semble que la peur là pour lui pouvait vraiment le pousser à condamner violemment ses adversaires, ce qu'il finalement ne fait pas.
Christ.
Lita Basset, hier, nous avons vu que nous-mêmes, lorsque nous sommes assaillis par une peur liée à une blessure, nous jugeons autrui. Dans ce texte de la femme adultère, c'est vrai que Jésus aurait pu juger lui aussi.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui fait qu'il ne juge pas, lui ?
Alors, il me semble qu'il y a le silence, le fait qu'il baisse la tête, et que là, il y a un verbe à l'imparfait, il continuait à l'interroger. Alors, cette indication montre que ça peut prendre beaucoup de temps. Et que, au fond, nous, souvent, nos jugements fusent comme des flèches, ça part comme ça, et c'est venimeux. Alors que si nous disions, bon, je prends un temps avant de réagir, je vais un peu dans du silence, les choses commencent à se clarifier pour nous. Et donc, Jésus baisse la tête, il est dans ce silence, il est dans cette solitude aussi, il n'est plus question de la foule, il n'est pas question de Dieu, il n'est pas question de disciples, on dirait qu'il est vraiment tout seul face à ses adversaires et dans une situation piégeante.
Mais lui-même a dû, justement, dans ce silence, reconnaître en lui une peur.
Et une tentation de juger. Mais on va maintenant, bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé en lui. De toute façon, tout être humain est un mystère. Mais alors, là, en plus de ça, il y a 20 siècles qui nous séparent. On n'a que des textes, etc. Mais je peux m'imaginer ou sentir que dans cette situation-là, ça va pas de soi de se dire dans quelques jours je vais être crucifié, je vais être mise à mort. Donc il y a cette on le sait avec le Gethsémané. Vous savez que l'histoire de Gethsémané, elle n'y est pas chez Jean. Elle n'est que chez Matthieu, Marc et Luc. Et on dirait que cet épisode-là de la femme adultère, qui n'est pas justement chez les trois autres, remplacerait d'une certaine manière Gethsémané. C'est-à-dire, à Gethsémané, dans les trois autres évangiles, Jésus est confronté à la frayeur. C'est dit dans le texte, une frayeur mortelle. Donc, si ça existe, les trois autres en ont été témoins de cette frayeur mortelle. Chez Jean, elle est peut-être pas dite comme ça, puisqu'il n'y a pas le récit de Gethsémané, mais on peut penser que, à quelques jours de son arrestation, il a été dans cette scène-là, vraiment confronté à cette frayeur mortelle de cette crucifixion qui approchait, avec la tentation qui vient avec de, vous savez, il y a des condamnés à mort qui, au moment de mourir, crient des insanités, et des condamnations, sans appel de leurs adversaires.
Alors la scène se termine, le face-à-face avec Jésus et cette femme qu'il ne condamne pas.
Oui, il lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », ce que je trouve extraordinaire. Extraordinaire d'humilité, parce que c'est comme s'il se mettait au même niveau que les autres, que les scribes et les pharisiens, que les autres êtres humains, en disant « Mais moi, là, c'est ce que je sens, c'est le vrai homme de la tradition chrétienne. Vrai homme, vrai Dieu. Moi non plus, je ne te condamne pas parce que je suis un être humain comme n'importe quel être humain et je n'ai pas à prendre la place de Dieu. » Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu et qu'il était fils de Dieu. C'est les témoins qui l'ont dit. Lui, il ne l'a jamais dit de lui-même. Et c'était ça, justement, qui faisait de lui quelqu'un d'extraordinaire, c'est qu'il ne disait pas « Moi, comme si j'étais Dieu en personne, parce que je suis Dieu en personne, je ne te condamne plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, pas plus que les autres êtres humains, j'ai à prendre la place de Dieu pour décider de façon définitive et absolue la valeur de quelqu'un. »
Et quelle humilité chez cet homme.
Mais c'est ça qui est fabuleux, c'est cette humilité.
Merci, nous continuerons demain cette série.